Dans la lignée qui assure à l'Opéra de Paris les statuts mythiques, dirait-on, de temple européen de la danse classique, Serge Liffard jouit d'une place apparemment incontestée. Danseur avec les ballets russes de Diaghilev, maître de ballet et chorégraphe à l'Opéra de 1930 à 1945 et encore de 1947 à 1958, il a exercé une autorité et une influence considérables dans les contextes de l'opéra, où sa défense du classicisme, ou mieux, du néoclassicisme qu'il contribua à enrichir, l'a intégré dans l'histoire séculaire de la danse d'école, qui depuis des siècles était considérée l'un des piliers de l'identité française. En même temps, Liffard créa notamment des obstacles considérables à la circulation de visions du classicisme différentes par rapport à la sienne, aussi bien qu'au développement des principes et pratiques de la danse moderne. Sur sa transmission, qui est devenue organique à l'école et au répertoire de l'opéra, a joué un rôle crucial son lien avec les ballets russes de Diaghilev. Cette compagnie, à Paris depuis 1909, avait notamment maintenu un rapport privilégié avec les élites intellectuelles françaises, même après son déplacement d'après-guerre à Monte-Carlo. La relation de Liffard avec ce patrimoine de choix artistique et de style chorégraphique spectaculaire a été au moins ambiguë et son lien avec la danse française a été idéologiquement chargé. Cette communication qui se limite aux années 30, la décennie où Liffard bâtit sa fortune, fait partie d'une étude de plus grande envergure sur la construction du mythe des ballets russes dans l'Europe du XXe siècle. Identité, mémoire, archives. Ce sont les paradigmes, toujours s'entrecroisant, qui permettent de cerner un chorégraphe qui montre, comme aucun autre ne semble l'avoir fait, ce que l'historien Henri Rousseau a appelé « hantise du passé ». Ce passé qui ne passe pas, ce sentiment de devoir travailler toujours avec la mémoire, de représenter ce qui n'est plus, de le remémorer et le monumentaliser. Paul Ricoeur nous dit que c'est, je cite, « dans la mesure où la proclamation du devoir de mémoire demeure captive du symptôme de hantise, qu'il ne cesse d'hésiter entre eu et abus ». Fin citation. À cause de la fonction médiatrice du récit, l'abus de mémoire, résultat d'une construction qui, dans la répétition, atteint la fixité et la clôture, devient abus d'oubli. En 2012, j'ai publié Identité, donc, premier volet. En 2012, j'ai publié un texte sur les Liffard historiens, dont les premiers livres sortirent pendant les années 30. A écrit Michel Desserteau, toute recherche historiographique s'articule sur un lieu de production socio-économique, politique et culturelle. Elle est donc soumise à des contraintes liées à des privilèges, enracinées dans une particularité. Fin citation. Les textes de Liffard et ses récits sont bien illuminés par le lieu de Serteau, qui est le contexte où il naquit, l'a ainsi appelé Tsaroubiechnaya Rassiya, Russie en émigration, la communauté parisienne des Russes enfouis de la révolution de 1917 et de la guerre civile. Cette communauté de quelques dizaines de milliers d'individus, inférieure en volume à d'autres communautés étrangères parisiennes, mais dont l'élite intellectuelle était plus visible, devint, surtout après 1924, quand la France reconnut officiellement l'État soviétique et l'espoir de rentrer en patrie s'éteignit dans les émigrés d'une façon définitive, une sorte d'État hors frontières, doté de toute institution en en garantissant la cohésion identitaire et culturelle, des églises aux maisons d'édition, des bibliothèques aux écoles primaires et secondaires, à un conservatoire et une université. Une communauté ainsi construite vise à conceptualiser l'expérience de l'exil et du deuil. Selon l'anthropologue américain Clifford Geertz, la culture est un mécanisme de contrôle pour organiser et préserver des informations. Ce mécanisme agit sur la base de certaines valeurs qui constituent son code et qui président à la formation de modèles idéaux. C'est en créant ces modèles que l'exilé donne un sens à son expérience. Quel modèle idéal de danse, donc, répondant à la vision spécifique des Russes enfouis de la Révolution, a été créé et par qui dans la communauté parisienne? En 2012, j'ai prouvé la relation de l'IFER avec le fameux spécialiste de Pushkin en immigration, Modeste Ludwigovitch Hoffmann, qui, depuis 1934 jusqu'à 1945, écrivit les textes que l'IFER signa. Pour me limiter en ce moment au texte sur la danse, la première autobiographie lifarienne de 1935, relatant les années vécues en Ukraine et remplie par Hoffmann avec ses propres souvenirs, aussi bien que l'important « La danse », les grands courants de la danse académique de 1938, publiés en russe une année avant, sont les résultats du sens d'appartenance et de deuil vécu par la Russie en émigration tout entière et en même temps sa prise de position idéologique telle que Certeau l'a théorisée. Je focalise maintenant les deux initiatives lifariennes des années 30. Les célébrations de Pushkin d'un côté et de Diaghilev de l'autre, se concrétisant les deux, non seulement en livres, mais aussi en exposition. Elles furent deux étapes importantes dans ce procès de fertilisation réciproque entre la France et la Russie en émigration, qui était en cours depuis le début des années 20. Malgré l'assassinat du président de la République française d'Oumer de la main des Russes émigrés, 1932, malgré les vagues xénophobes causées par la crise économique et les rapprochements de la France à l'Empire soviétique en fonction anti-allemande, ces initiatives réaffirmèrent les liens privilégiés entre la Russie en émigration et l'Hexagone. L'IFAR réussit à s'insérer en protagoniste dans ces procès et à faire de la danse l'un des mythes fondateurs non seulement de sa carrière, mais aussi de la Russie en émigration. Au début des années 30, il s'activa donc sur deux fronts, l'un visant à obtenir la pleine visibilité de la part de la Russie en émigration, l'autre pour s'ériger en intellectuel devant le français. Les dates de parution de ces livres, qui seulement quelques fois sortirent en même temps en français et en russe, nous permettent d'identifier les destinataires de volumes qui, bien qu'ayant le même titre, n'étaient pas forcément pareils, comme semblent montrer leurs différents numéros de pages. Installé depuis 1930 à l'Opéra de Paris en tant que premier danseur et chorégraphe, ses premières créations n'avaient pas suscité une grande impression. La saison de 1932, où il reprit le fauquinien Spectre de la Rose, aussi bien que Gisèle, dans la chorégraphie de Petit Pas, lui gagna finalement l'admiration du sévère André Levinson, le doyen des critiques de danse en émigration. Les duels avec l'ombre de Nijinsky, je cite Levinson, que l'IFAR engagea dans le spectre, vit le jeune danseur gagnant en raison non seulement de sa exécution, parfaite selon Levinson, des enchaînements classiques, mais d'un corps qui n'était que, je cite encore les critiques, une étonnante machine à danser. Fin citation. Dans un climat culturel non plus assoiffé des symboles comme celui de 1911, mais inclinant vers le réalisme, les corps lifariens se proposaient comme une statue vivante, les résultats d'un long et pénible travail d'athlète plutôt que d'une inspiration miraculeuse, comme avait été le cas pour Nijinsky. Quant à, et je cite encore Levinson, la résurrection apothéotique de Gisèle, les critiques pétersbourgeois y lisaient une danse masculine capable finalement de sanctionner la modernité d'un chef-d'œuvre romantique en y destinant, à côté de la ballerine, non plus un mime, tel que, selon Levinson, avait été Lucien Petitpas au début du ballet, mais, je cite, un cavalier, toujours, je cite toujours Levinson, qui sert un pilier et un été et s'est transformé, je cite encore, un service auxiliaire en chose d'art donnant expression à sa vérité sensuelle et spirituelle. Fin citation. En syntonie avec son temps, Levinson lisait donc la performance lifarienne comme rendant explicite les nouvelles valeurs des années 30. Une masculinité orthodoxe, la famille, la tradition. Avant sa mort prématurée, Levinson acheva une monographie sur l'IFAR qui sortirait posthume en 1934 et serait très tôt réimprimée. Il y consignait l'image du jeune danseur comme de celui qui était prédestiné à continuer, je cite, « la grande lignée du ballet russe en rétrogradant vers la plus haute époque du ballet français ». Fin citation. Le rôle qu'il avait ainsi assumé, déclarait Levinson, était celui, je cite encore, « de restituer à l'art français un précieux dépôt. Mais de quel dépôt s'agissait-il? À Paris, depuis 1921, Levinson avait agi le premier en charnière entre la culture française et la culture russe, les rapprochant sous le banneau de l'héritage symboliste et de l'idéalisation de la danse classique. Auteur de plusieurs livres écrits dans un français impeccable, lié d'amitié avec nombre d'écrivains français et à son aise dans tous les arts, Levinson avait été l'un des écrivains les plus en vue de la Russie en émigration, et de la France aussi. Le deuil pour toute une culture, la sienne, écrasée par la révolution de 1917, s'était transformé en lui dans la défense acharnée de la France comme du bastion capable d'assurer la survie des valeurs classiques latines par rapport à la violence barbare qui caractérisait, selon lui, l'Allemagne et l'Empire soviétique. Avec sa mort en 1933, il n'y avait pas dans la Russie en émigration quelqu'un qui, pour la danse, puisse agir en lien avec la France, en négociant des valeurs partagées. Des autres influents critiques russes de danse avaient émigré à Paris, Valérien Svetlov, qui mourut une année après Levinson, et Alexandre Plescheyev, qui, quand même, n'étant pas bilingue, ne pouvait pas agir en médiateur culturel. C'est le rôle dont Liffard va s'approprier grâce à l'autorité et à l'érudition de Modeste Hoffmann, qui écrivit les livres qu'il signa, et grâce aux deux grandes commémorations autour desquelles se réunirent la Zarubezhnaya Rossiya et la France. En 1937, le centenaire de la mort du poète majeur de la littérature russe Alexandre Pouchkine, et en 1939, les décennales de la mort de Diaghilev. Volet 2, mémoire. Anxiété générée par l'essence de la fin immanente des sociétés mémoire. Urgence de recueillir ce qui reste, de donner aux vestiges la dignité du mémorable, d'ériger des lieux, de tisser des discours en mots et images qui sanctionnent l'appartenance dans les détachements. Ce sont les lieux de mémoire qu'a théorisé Pierre Nora. Les célébrations de 1937 et de 1939, les expositions et les livres où Liffard joua un rôle essentiel, furent exactement cela. La Russie en émigration d'une part, de jour en jour plus incline vers l'assimilation, avec une mémoire culturelle défiée par les nouveaux mythes de la Russie soviétique, qui en 1937 célébrait d'ailleurs la 20e année depuis la Révolution et était présente à Paris avec son pavillon à l'exposition universelle, lisait l'œuvre de Pouchkine comme médiatrice entre l'esprit de géométrie européen et l'esprit mystique identifié avec l'Orient. Cette redéfinition d'identité confirmait une représentation de la Russie en tant que pays européen, enrichi par toutes les cultures opérant dans son vaste territoire, mais ne pas s'identifiant avec les côtés asiatiques. C'était là une problématique identitaire qui tourmentait les intellectuels russes depuis au moins un siècle. Cette proclamation identitaire se faisait en revendiquant un esprit messianique qui se voulait agissant au-delà de toute limite de temps et d'espace et que l'on retrouve dans les livres d'Hoffmann et de Liffard. Au centre de l'exposition Pouchkine et son époque, organisée par Liffard et ouverte à la salle Pleyel le 17 mars 1937, trônait en fétiche ces lettres de Pouchkine à sa fiancée, qui avaient été les derniers trophées du Diaghilev collectionneur et qui étaient entrés dans la propriété du danseur d'une façon encore non explorée. Dans les catalogues de l'expo, publiés seulement en français, du nom de Diaghilev, il n'y avait quand même aucune trace. Les livres et les textes sur Pouchkine écrits par Hoffmann et signés par Liffard fixaient l'image d'un chorégraphe écrivain, d'un érudit, d'un mécène qui avait fondé une maison d'édition en langue russe pour republier des textes pouchkiniens et avait organisé des soirées dansantes au profit du fonds Pouchkine. Dans la soirée du 17 mars 1936, par exemple, qui fut introduite par Paul Valéry, Liffard avait programmé des extraits d'opéras de Rimsky-Korsakov et Moussorgski, composés sur des livrets tirés de l'œuvre de Pouchkine, et dansé son nouveau cheval de bataille, l'après-midi d'un faune, tiré du répertoire diaghilevien, mais réchorégraphié par lui-même en solo. Depuis des années, Liffard s'engageait en fait à messager d'un anniversaire, célébré solennellement d'ailleurs dans le monde entier, par toutes les communautés russes en émigration. Les manifestations pouchkiniennes furent au centre de l'attention des médias, soit russes, soit français. Les sites négociés pour l'exposition étaient la Bibliothèque nationale, la salle Pleyel étant le lieu d'ailleurs bien familier aux Russes qui y tenaient d'habitude leurs manifestations, où l'IFA replia pour éviter que l'ambassadeur soviétique n'ouvre l'exposition. La récurrence pushkinienne fut célébrée dans les institutions françaises les plus importantes, entre autres la Sorbonne, et l'appropriation de l'événement de la part de la France fut telle qu'une lecture de poèmes pushkiniennes de la part de Marina Tsvetaeva fut arrangée dans le contexte d'un festival organisé par les Noirs parisiens et présidé par les ministres des colonies. Ce fut l'IFA encore qui consacra 1939 comme l'année diaghilevien. Il avait commandé à Hoffmann une biographie de l'impresario qui sortit en russe dans la même année et organisa une exposition, la première et la plus grande jamais mise en place jusqu'à ce point, sur toute l'activité de la compagnie. Cette fois, c'était le Louvre qui accueillait l'exposition, un lieu qui en soi baptisait les ballets russes diaghileviens comme une initiative à la même hauteur artistique que les œuvres, autrefois appartenues au roi de France, contenues dans ces salles. Si l'exposition pushkinienne à laquelle Hoffmann avait travaillé en protagoniste était chargée de signification émotionnelle à cause d'objets directement relatant à la vie du poète, de ses lettres et manuscrits à son pistolet, et d'un vernissage où tenaient des allocutions les neveux de Pushkin, celle dédiée à Diaghilev s'est déployée selon un récit froid et autoritaire tissé par les seuls liphares. Aucun autre chorégraphe ou danseur n'était de quelque façon engagé dans l'exposition, aucun témoignage personnel n'était prévu, autre qu'incorporé et figé dans les objets, les papiers, les livres. Les principaux témoignages de l'itinéraire diaghilevien étaient toutefois les projets des décors et des costumes, les rideaux et toiles de fond, qui, par cet acte même, abandonnaient leurs valeurs d'usage, s'élevant en œuvres d'art à plein titre. Les noms des propriétaires des œuvres appartenant à la crème de l'intellectualité française et anglaise identifiaient les ballets russes comme un héritage français et international, bien sûr, aussi que russe, mais duquel la Russie soviétique était exclue. Recueillis dans les temples laïques du Louvre, les traces des ballets russes s'offraient à des itinéraires de vision où la reconnaissance identitaire se faisait liturgie des citoyennetés. La grandeur de l'hommage isolait dans l'histoire l'aventure diaghilevienne, la montrant achevée et irrépétible. L'IFA donc, s'en proposait-il comme l'héritier ou les liquidateurs? Dans les livres lifariens des années 30, une vision ne fait que se présenter. La mission d'un danseur russe en France serait celle de rendre aux Français le style qui avait été le leur pendant la période romantique, ce style que les maîtres français avaient exporté pendant le XIXe siècle en Russie et qui s'y était préservé intact grâce à la relative stabilité politique et culturelle garantie par les tsars. C'était Diaghilev qui avait reconduit ce style en France, bien que l'exposant, selon Liffard et Hoffmann, à des avant-gardisme nuisible. Et c'était finalement Liffard, leur ultime représentant, celui qui était destiné à rendre pleinement à la France la pureté de l'idéal classique. L'expédient par lequel Diaghilev avait promu son aventure artistique, représentant et déqualifiant en même temps comme décadence tout ce qui l'avait précédé, une rhétorique qui s'était faite foi idéologique en fonction antimoderne avec Levinson, et qui se propagera au monde anglophone grâce à Beaumont et à Skell jusqu'à Ivor Guest, devint avec Liffard le modèle idéal de la Russie en émigration. C'était un mythe qui partageait les valeurs de la centralité de la France, de la danse d'élévation française et de l'Opéra de Paris comme son temple. Les corps dansants russes étaient représentés comme une archive de valeurs stylistiques immutables et éternelles. Le phénomène de l'émigration à la suite de la Révolution et la dissémination des danseurs russes dans le monde étant la garantie de la restauration d'une technique qui réaffirmerait la souveraineté de la danse française. Troisième volet, archives. La relation de Liffard avec Diaghilev s'avérait solide et fragile en même temps. Les années 30 de Liffard s'étaient ouvertes d'ailleurs avec son manifeste de choréauteur, revendiquant le pouvoir du chorégraphe face aux musiciens et à l'auteur du livret, et s'achèverait par sa condamnation de Stravinsky, le plus grand compagnon de route de Diaghilev. Dévotion et distance, attachement et instrumentalisation fusionnaient et fusionneront toujours avec les phares par rapport à Diaghilev et par rapport à l'archive. L'Eliphar, collectionneur de traces, infatigable manipulateur de documents qu'il conserva, cacha, détruisit, inventa, spectacularisa en fétiche, s'explique aussi par l'ambiguïté d'un statut d'héritier qu'il ne fit qu'affirmer et nier. Les concepts d'héridien d'archives comme, je cite, « commencement » et « commandement » expliquent bien le corps à corps de l'Eliphar avec les papiers. Et son identité de russe en émigration montre son approche avec l'archive comme avec un espace toujours blessé, né du désastre et hanté par le désastre. Une cartographie du deuil. Merci.
Merci beaucoup, Patricia. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai peut-être deux questions. Dans ce cas-là, je lance. En tout cas. Ah, pardon. Allez-y. Non, allez-y.
Je voulais vous demander, Patricia, dans quelle mesure l'exemple d'archives de Rolf de Marais pouvait avoir influencé cette attitude par rapport au papier.
Oui, évidemment.
Est-ce qu'il y a des traces de Marais comme modèle pour la construction d'un archive mythisant d'une certaine saison de la danse?
Comme vous savez, le phénomène des archives internationales de la danse est un phénomène très complexe qui a été étudié d'ailleurs en France récemment, et avec un côté anthropologique, une série de curiosités et de nouveaux chemins qui furent lancés et que l'on ne retrouve pas dans les phares. Quand même, l'Eliphar fréquentait les Aïdés. L'une des photos que je viens de vous montrer, celle avec les grands livres sur le fond, a été prise dans les archives. Il a fait des conférences aux archives. Donc, c'était une institution majeure. Mais je pense que... En tant que russe et un russe qui avait dû... il ne s'était pas enfui à cause de la révolution, mais il était... mais pour faire une carrière, pour faire une fortune, mais il n'avait plus pu rentrer, donc comme beaucoup dans sa patrie. Et je crois en fait que dans ces cas-là, l'expérience de l'archive est plus liée à l'expérience du deuil et du... C'est tout ce qui reste, les livres, je trouve que ça est lié beaucoup plus, c'est mon hypothèse, mais évidemment, les archives internationales de la danse, c'était une expérience d'avant-garde, absolument. Mais c'était aussi les temps, les années 30, c'est les années des encyclopédies, pour la danse aussi, des encyclopédies, des dictionnaires, où on recueille. Peut-être aussi parce que avec le cinéma, avec les nouveaux moyens de communication, les théâtres, on percevait que le théâtre c'était quelque chose d'éphémère, et donc pour préserver. Mais les archives, l'Eliphar avait vraiment il était hanté par l'archive, par les papiers. Il avait même acheté l'archive d'Hoffmann pour ne rien y faire avec. Mais donc vraiment, il ramassait. Et ensuite, il faisait, on ne sait pas vraiment quoi. Parce que le problème des archives de l'Eliphar, c'est le plus grand problème qui pertient à ces chorégraphes. Comme à la bande, d'ailleurs.
Moi, je vais peut-être poser une question à Patricia, deux d'ailleurs. Quelle était la nature des relations de l'Eliphar avec les autres danseurs en exil, et comment ceux-ci percevaient le positionnement de l'Eliphar? Est-ce qu'il y avait des débats au sein la communauté exilée à Paris. C'est quand même, la position de l'IFAR est très forte, et je suppose qu'il y avait d'autres opinions qui circulaient dans le milieu des danseurs en exil. Et la deuxième question concerne plus cette relation entre l'IFAR et Hoffmann. Quelle est la nature de ce secret du travail d'Hoffmann pour l'IFAR? Est-ce qu'au sein de la communauté exilée, les gens savaient que Hoffmann écrivait les livres de l'IFAR ou non? Et quelle était la raison de maintenir ce secret? Puisqu'on peut imaginer que Hoffmann, étant un académicien très célèbre en Russie, il aurait pu aussi participer à la mise en scène de la valeur culturelle de cette communauté en exil, plutôt que de rester dans l'ombre.
Donc, pour ce qui concerne la première question, je ne sais pas vraiment. J'ai consulté un ouvrage énorme, en plusieurs volumes, qui concerne la Russie en émigration, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Sinon, les traces de la présence de l'IFAR à l'intérieur des manifestations qui précédèrent la grande célébration pushkinienne de 1937. Je voudrais vraiment savoir qu'est-ce qu'il en était avec les autres danseurs russes à Paris. Non, je ne sais pas encore. Pour ce qui concerne la relation avec Hoffmann, Hoffmann travaillait pour gagner quelque peu d'argent qui puisse l'aider à survivre. Il vivait avec son fils, il était très pauvre, comme beaucoup de Russes, et il essayait à vendre son érudition. Et l'IFAR semble avoir eu beaucoup d'argent par rapport à ce qu'il dépensait, je ne sais pas. Et l'IFAR ne voulait pas qu'on sache que Hoffmann écrivait pour lui. Comme on peut comprendre à partir de quelques lettres, d'une lettre en particulier écrite par Hoffmann à son fils. Faut savoir que Hoffmann, à un bon moment, écrivait un roman qui avait comme protagoniste un musicien, et à qui quelqu'un d'autre écrivait les partitions. Et donc là, l'argument était allé tellement à un bon point que, évidemment, c'était une paraphrase de sa propre expérience, qu'il disait à son fils dans cette lettre, « J'ai dû détruire ce document parce que je perds que l'IFAR ne s'en aperçoivent et puissent ne plus me commander des livres. » Donc, j'imagine qu'il y avait plusieurs Russes auxquels l'IFAR aurait pu s'adresser. Et en plus, Hoffmann, pour Diaghilev, pour les livres sur Diaghilev, fit recours à un nombre de lettres à Diaghilev qui sont disparues. Donc, mais aussi à ses connaissances personnelles et à des témoignages d'autres personnes. Mais pour les autres livres, il faisait recours à la bibliothèque Turgenev, qui était une bibliothèque extrêmement riche. Elle fut pillée par les nazis. Et donc, même quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Les faire payer bien. Donc, le secret, c'était ça, la survivance.
Va benissimo, io parlerò però in italiano, mi scuso. Allora, una prima domanda è perché nel nome di Alexander Plesheyev il nome in francese e la traslitterazione di Plesheyev invece è secondo là nelle norme scientifiche? La seconda, cioè, volevo sapere se è perché nella tradizione dei libri Briletti, via qua. La seconda è su Giselle. Perché Giselle, lui, Albrecht, o come vuoi chiamarlo in francese, perché qui si parla appunto di Mimmo perdendo la prospettiva storica di una tradizione che da pochi anni aveva visto Nijinsky, quindi assolutamente non un Mimmo, ma un artista tutto tondo, insomma, un danzatore, attore e pienamente... Ecco, quindi volevo sapere come si rapportava, se è la recensione, perché non è vista appunto in una più ampia prospettiva la figura. La terza è a proposito del... è chiaro? È chiaro, sì. A proposito dell'accreditamento di una tradizione, quanto invece è l'IFAR a voler accreditare la sua posizione come erede di una tradizione, quando invece, scusate la geopolitica, lui viene da Kiev. Oggi diremmo Kiev che cos'è? È Russia, okay. Cioè viene da una sicuramente una provincia, e ha studiato con Bronislava Nijinska uno stile del tutto diverso, quindi ha studiato secondo gli stilemi di Bronislava Nijinska. E quindi ha studiato... Ecco, basta.
E non ho capito bene questa terza domanda.
Ecco, la terza domanda è nell'accreditare...
Ah, ho capito. Perfetto. Alors, pour ce qui concerne la transitération, si, pour ce qui concerne la transitération, bon, c'est mon erreur. Entre la transitération anglaise et française et italienne, bon, pardonnez-moi. Bon. Seconde réponse, c'est pas moi qui a évalué Giselle, mais Levinson. Je citais Levinson. Levinson qui n'avait pas vu la Giselle de Nijinsky. Donc, bon, lui, ce qu'il en songeait, c'est ce que j'ai cité. Et les années sont différentes. Donc, Giselle de Nijinsky, je crois que c'est 1910, et ici, on est 32. Donc, une guerre et beaucoup de choses avaient changé les choses, et en plus, Levinson ne connaissait pas. Et la troisième réponse, bon, encore, il avait étudié avec Bronislava Nijinska, mais bien peu, très peu. Nijinska ne l'estimait pas tellement. Et donc, quand on parle de tradition qu'il avait reçue, mais laquelle bon, oui, bon, il avait commencé à étudier, mais ensuite, il était entré dans la compagnie de Diaghilev. Diaghilev l'avait fait étudier avec ses maîtres et avec Cecchetti, donc la tradition personnelle de l'IFAR, c'était quelque chose de... Maintenant, on va voir avec l'étude en cours de Linga Raffola sur Nijinska, qu'est-ce qu'il en sort du lien entre Nijinska et l'IFAR, parce qu'il a été un lien très tourmenté d'ailleurs. Parce que, comme vous savez, l'IFAR n'a jamais invité aucun... Il a fait le désert autour de lui sur les autres maîtres russes, danseurs russes. Donc, on voit les papiers, la fameuse archive, si elle nous aide pour le futur. Merci.
Merci beaucoup, Patricia. Nous